Eh bien, en ce vendredi 22 août, nous terminons notre étude sur les droits du Fils de l'homme par le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Je vais simplement faire la lecture. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal, exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ? » Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le sacrifice au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose nous bien conduire. C'est avec insistance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Eh bien, mes amis, à la fin du chapitre 12e, nous recevions un solennel avertissement de ne pas refuser celui qui parle et qui nous parle des cieux. Et nous avons été mis sérieusement en garde contre cet endurcissement du cœur. Nous avons lu sa parole, mais vous-même, pendant ce camp, l'avez-vous entendu vous parler? Il n'est pas du tout question de moi. Vous ne pouvez pas me dire que pendant quelques jours, Dieu ne vous a rien dit. Ça ne dépend nullement de moi. Ce qui ne me justifie en rien, et j'ai affaire avec le Seigneur. Mais si vous prétendez que vous n'avez pas entendu sa voix, c'est que vous avez bouché vos oreilles. Si vous n'avez rien vu de lui, c'est que vous avez bouché vos yeux. Et si vous n'avez rien éprouvé, c'est que votre cœur est encore une pierre et n'a pas été brisé. Ou s'il a été brisé une certaine fois il y a X années, depuis, eh bien, il est redevenu dur. Et ce qui pourrait expliquer cette dureté, ce n'est que l'orgueil spirituel qui vous aurait gagné. Et il n'y a rien qui endurcit autant les cœurs que l'orgueil spirituel. Et si l'orgueilleux mondain, si dans le monde, les orgueilleux du monde sont haïssables, dans l'Église, l'orgueilleux religieux, l'orgueilleux spirituel, l'orgueilleux évangélique, il est abominable. Pas encore l'orgueilleux mondain, mais l'orgueilleux évangélique, l'orgueilleux spirituel dans son milieu, il est proprement haïssable aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur est un Dieu jaloux qui ne donne pas sa gloire à un autre. Alors, souvenons-nous qu'il a parlé. Il a parlé non seulement au Sinaï, mais maintenant il nous parle des cieux. Et puis, il nous a averti qu'encore une fois, toutes les choses muables, toutes les choses visibles vont être ébranlées, et nous sommes au commencement de l'accomplissement de cette parole. Tout est ébranlé dans ce monde, parce que le grand événement qui se prépare, qui est prédit depuis des siècles, va s'accomplir, le Seigneur reviendra. Le Seigneur va bientôt sortir de son silence, le monde va bientôt connaître sa présence, alors qu'il a connu un long temps d'absence, et qu'on a parlé du silence et de l'absence de Dieu, et même de la mort de Dieu, et tout à coup, eh bien, on se rendra compte que Dieu est un Dieu vivant. Et que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, car Dieu est aussi un feu dévorant. Et c'est de cela que vous devez prendre conscience. Toutes les choses de ce monde commencent à être ébranlées. Les choses qui sont dans les cieux aussi vont être ébranlées. Et je ne vais pas vous dire ce que l'on pense qui arrivera en 1982 lors de l'alignement des planètes. Il y a assez de grands savants qui même ne sont pas croyants, qui sont déjà dans la terreur. On a retiré des livres qu'ils avaient pu écrire parce que ça affolerait le monde. Mais je ne m'en vais pas être un homme qui vous dit des dates, mais je vous signale que dans le monde incroyant, il y a une crainte, une angoisse. Et les gens vont entrer dans cette période de laquelle Jésus a dit, ils rendront l'âme de peur à cause des événements qui vont venir. Alors vous voyez l'ébranlement de tout dans la planète, les nations s'élèvent contre les nations, ébranlement économique, ébranlement politique, ébranlement social, ébranlement monétaire. Nous savons bien que nous allons devant d'une nouvelle monnaie, enfin d'un nouveau système monétaire qui sera mondial et mené par l'homme de péché. Nous savons que nous voyons tout cela se préparer. Alors, il n'y a plus dans l'ébranlement de toutes choses qu'un point fixe qui est la parole de Dieu. Alors, votre point fixe, et ce qui vous donnera un équilibre, c'est d'être fixé sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'appelle comment? Jésus. La parole de Dieu, c'est quelqu'un, c'est une personne. En lisant la Bible, c'est une personne que vous devez trouver. Chaque lecture biblique doit vous amener en contact avec une personne et non pas un ensemble de vérités. C'est toujours la personne sur la cuisse du Seigneur qui revient sur les nuées du ciel avec tous les rachetés qui l'a d'abord enlevé et qui ont passé un temps dans la gloire avec lui pour célébrer les noces de l'agneau. Quand il revient, il est dit qu'il y a un nom sur sa cuisse qui s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre seulement, c'est quelqu'un. C'est la personne même du Seigneur. Alors, c'est lui qui va établir ce royaume inébranlable dont parlait Daniel, mais nous serons avec lui pour recevoir ce royaume inébranlable. Alors nous devons montrer notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte. Est-ce que vous êtes de ceux qui rendent un culte? Un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. La piété, c'est une relation réelle avec Dieu. La crainte, ce n'est pas la peur, c'est seulement la crainte de le déshonorer. Parce qu'on a pris Dieu au sérieux, qu'on sait qu'on ne se moque pas de lui. Alors, vous arrivez à ces exhortations du chapitre 13, et ce que nous trouvons dans ces exhortations, c'est plus d'une vérité qu'il importe de remarquer. Mais ces exhortations sont si simples, et pourtant tellement importantes. Elles sont si simples que n'importe qui peut les comprendre, mais elle n'exige pas beaucoup d'explications. Elle se rapporte à la marche d'un chrétien ici-bas, mais d'un chrétien qui sait que sa position dans le ciel est garantie par Jésus lui-même. Alors, maintenant, combien en avez-vous trouvé? Peu importe, relisez le chapitre, refaites le compte, et vous en trouverez plus que 12, plus que 13, peut-être plus que 14, ou 15. L'essentiel, c'est que l'exhortation qui vous concernait aujourd'hui, vous l'ayez reçue. Persévérez dans l'amour fraternel, oui. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Souvenez-vous des prisonniers. Sortez de vous-même, de vos petites préoccupations, et ayez une pensée pour ceux qui sont dans la peine. Et qui sont, à cause de leurs péchés, c'est les prisonniers de droit commun, ou des prisonniers politiques, qui ont voulu eux-mêmes changer la situation, au lieu de se laisser changer par le Seigneur. Et alors, ils sont en prison. Donc, ce n'est pas seulement des prisonniers pour leur foi, mais il y en a aussi. Alors, sortez de votre petit confort spirituel et pensez à cette multitude d'hommes et de femmes qui ont invoqué le nom de Jésus et qui sont dans les prisons pour avoir invoqué le nom de Jésus. Et puis, ensuite, souvenez-vous bien que vous-même, vous êtes dans un corps. Hein? Alors, quand on vous dit qu'on torture quelqu'un, bien, vous pouvez sentir quelque chose. Parce que vous avez un corps. Nous avons un corps de chair. Et quand on vous dit qu'on les torture, eh bien, ça doit vous toucher. Vous pouvez, parce que vous avez ce corps. Et vous savez ce que ça vous ferait si on vous arrache les ongles. si on vous brûle les seins avec une cigarette pour faire des petits dessins, vous savez ce que ça vous ferait, hein? Vous n'avez pas besoin d'essayer pour sympathiser. Vous savez très bien ce que ça vous ferait. Alors vous aurez une prière, vous aurez une pensée pour ces gens-là. Puis vous vous poserez une question, mais Seigneur, est-ce que je pourrais supporter ça? Le Seigneur vous dira, eh bien, pour le savoir, essaye déjà de supporter les petites moqueries, les petites opprobres, les petites piqûres d'épingle, parce que ta sœur est jalouse de toi, parce que ton frère a dit une méchanceté sur toi. Est-ce que tu peux supporter ça? Ces petites tortures-là? Ben, si tu peux commencer par ça, je te promets que tu pourras supporter aussi la grande torture si elle vient. Mais je ne t'enverrai pas au-delà de ce que tu peux supporter. Ensuite, que le mariage soit honoré de tous. Eh bien, ce n'est pas parce que nous sommes dans les derniers temps que nous pouvons avoir une nouvelle morale. Et comme certains l'auraient voulu, par exemple, que l'on mette des couples dans la même tente. Oh, ils ne nous disaient pas qu'ils feraient l'échange de couples. Mais si nous l'avions toléré cela, qu'on mette des couples dans la même tente, bien, qu'est-ce qu'on dirait après? Parce qu'il y a les cancans, ou comme à Anaïm, eh bien, ils font l'échange de couples. Parce que les chrétiens vont toujours plus loin que ce qui s'est passé. Quand il s'agit de dire du mal, on exagère, on déforme, on voit toujours, non pas le pas pire, mais le pire. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, n'est-ce pas? Alors, il n'est pas question de nouvelle morale. Le mariage doit être honoré de tous. Qui est-ce qui l'a établi? C'est le Seigneur. Et il y a des grands principes qui ne changent pas. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Et alors, nous devons maintenir ce lien sacré du mariage. Et tout homme qui aime Dieu, qui se soumet à Dieu, se soumet aussi aux autorités. Alors, s'il vit avec une femme, eh bien, il est marié, en tout cas civilement. Car le mariage à l'église, que ce soit dans une église catholique ou protestante, c'est pas un autre mariage. Ce qui compte, c'est le mariage civil devant les autorités. Et puis ensuite, on demande la bénédiction du Seigneur. Ici au Québec, comme il n'y avait pas d'autorité civile, qui est-ce qui faisait fonction de maire, n'est-ce pas? C'était le prêtre ou le pasteur. Ils faisaient fonction de... Comment est-ce qu'on appelle ça? L'officier d'état civil. Merci, ma chère. Ils faisaient fonction d'officier d'état civil. Parce que chez nous, il y a un état civil. Quand vous naissez, on vous fait un certificat de naissance. Tandis qu'ici, c'était votre papier, c'est un certificat de baptême. Mais vous comprenez, ce certificat de baptême était votre certificat de naissance, en quelque sorte. Comprenez-le bien. Et alors, ce qui compte, c'est quand même cette question civile qui doit être réglée. Et puis alors, là, quand on se marie, on éprouve le besoin de demander à Dieu la bénédiction. Et on aime que l'Église se rassemble pour prier pour nous. Mais ce n'est pas le prêtre qui bénit. Ce n'est pas le prêtre qui unit. Il demande la bénédiction. Et qui est-ce qui unit? Ça devrait être Dieu. Que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. C'est Dieu qui unit. Alors ce n'est pas une institution humaine, le mariage. C'est une institution divine. Bon. Mais on ne peut pas dire que tous les mariages ont été unis par Dieu. Alors, maintenant, ne prenez pas le mariage comme le port de la licence. Hein. Et évidemment, il vaut mieux se marier que de brûler. Maintenant que je suis marié, eh bien, je peux tout faire. Je peux faire subir à ma femme tous mes caprices. C'est toujours dans un accord total que la relation sexuelle peut avoir lieu. Et là, eh bien, vous êtes aussi toujours sous le regard du Seigneur, qui sanctifie
toutes choses et qui vous donne aussi toute liberté, mais aussi sous son regard et sans violer les fins dernières du mariage. Il y aurait beaucoup à dire dans tout cela. Mais nous passons et nous retenons ceci, c'est que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et voyez-vous, il n'est pas seulement question de commettre l'adultère dans la réalité en prenant la femme d'un autre, mais il y a aussi une manière d'être adultère dans le mariage même. Quand on en arrive à coucher avec sa femme ou avec son mari en pensant à un autre ou à une autre. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Voilà l'avarice. Alors vous développez ça avec les textes de Timothée. Dans la première épître de Timothée, c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Et c'est vrai. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Contentez-vous de ce que vous avez. Parce que sans cela, bien, vous créerez une inflation de plus en plus grande. Alors, contentez-vous de ce que vous avez. Mais pour se contenter de ce qu'on a, qu'est-ce qu'on devrait avoir d'abord? Le Seigneur. Parce que si vous n'avez pas le Seigneur, vous ne vous contenterez jamais de ce que vous avez. Il n'y a pas de limite au désir du cœur humain. Il n'y a que le Seigneur qui le comble. Puis après, il nous dit bien, sois reconnaissant, sois comme moi. Le Seigneur allait de lieu en lieu, il mangeait là où on l'invitait, il ne faisait pas la petite bouche. Il avait un coup de fourchette, si fourchette il y avait. Mais on disait, c'est un mangeur et un buveur. Tandis que Jean-Baptiste, à certains, trouvait qu'il était formidable, parce qu'il était maigre, il était plat. Et il avait un vêtement de poil de chameau. Tandis que Jésus, il avait une tunique sans couture. Elle était belle, qu'il avait confectionnée. C'était sa mère, la tunique, sur laquelle on a jeté le sort, on n'a pas voulu la déchirer. Elle était sans couture. Vous savez, le Seigneur n'était pas un déguenillé. Il avait une tunique. Étant content de ce que vous avez présentement dit l'Écriture, j'ai appris à être content dans la situation où je me trouve. C'est un apprentissage. Mais alors, il est dit, je sais être dans l'abondance. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui savent être dans l'abondance? Non, il y en a qui pensent toujours, quand ils sont dans l'abondance, ben, qu'ils ne devraient pas y être. Pourquoi est-ce que vous ne devriez pas l'être? Si Dieu vous fait un cadeau, pourquoi est-ce que vous n'en jouiriez pas? Et cette abondance qu'il vous donne, pourquoi n'en feriez-vous pas profiter les autres? Voilà la grande chose, mais il faut savoir être aussi dans l'abondance, si Dieu nous la donne. Parce qu'un jour, il va nous faire passer par la disette. Alors, je sais être dans l'abondance, mais je sais aussi avoir faim. Alors, on est heureux dans toutes les circonstances. Et c'est cela l'équilibre. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire. Et puis, il montre les dangers de la pauvreté, d'une part, et les dangers de la richesse, d'autre part. Lui-même a dit, je ne te les laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance, hein, on est assuré, on a une assurance, vieillesse et survivant. Et nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Alors, verset 7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. On en a vu quelques-uns dans l'Ancien Testament, Moïse en particulier, qui nous a annoncé beaucoup la parole de Dieu. Et puis, voyons la fin de leur vie et imitons leur foi. Parce que c'est toujours la fin de la vie qui manifeste un homme. C'est pour ça que nous ne pouvons pas le juger avant. c'est notre mort, si le Seigneur n'est pas venu, qui va fixer notre état réel. La mort nous fixe dans l'état où elle nous trouve. Il n'y a pas de possibilité de changement dans l'au-delà. C'est pourquoi, comprenez que votre vie, le temps qui vous reste à vivre, c'est quelque chose de capital pour vous. Imitez quoi chez les conducteurs? Tout? Non, la foi. Parce que si vous voyez Abraham, il y a des choses que vous ne devez pas imiter en Abraham. Mais ce qu'on doit imiter, c'est sa foi. Et reprenez tous ces hommes, vous avez à vous arrêter sur ce qui a été positif. Et c'est ça que nous devons imiter, et c'est pourquoi cette nuée de témoins est pour nous un grand apport et un enrichissement. Et alors, le témoin des témoins, c'est le verset 8, Jésus-Christ est le même. Il n'y a en lui ni ombre de variation ni changement. Et il est notre vie, c'est pourquoi notre vie, si c'est la vie de Jésus, même dans un temps comme le nôtre, elle peut manifester les mêmes fruits. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Quand vous serez hors du camp, vous allez encore en entendre toute espèce de doctrine. Et moi, je suis terriblement affligé de voir constamment des gens qui nous téléphonent ou qui demandent un rendez-vous pour nous demander « Mais qu'est-ce que vous pensez de ceci, de cela ?» alors qu'ils ont toutes les réponses dans la parole. Ou ils sont allés déjà trouver un frère, puis ils lui ont demandé, mais ils sont pas encore sûrs, et puis ils croient qu'on a plus d'autorité que l'autre, alors ils viennent encore à nous. Mais c'est pas ça. Vous devez pouvoir être fixé vous-même. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. La grâce nous apporte évidemment un affermissement. Comment est-ce qu'ils ont traduit ça ici? Ne vous laissez donc pas entraîner par toutes sortes de doctrines séductrices venues d'ailleurs. Donc, ce qui vient d'ailleurs, ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, bien, ne nous intéresse pas. Il est bon que le cœur soit affermi. Or, c'est la grâce divine qui lui donne sa fermeté et non pas l'observance de règles relatives à des aliments. Et il y a des gens qui vous donneront toujours des règles. Ça a pu être bon à un certain moment où tout était déréglé, mais maintenant, si vous voulez suivre uniquement des règles, eh bien, vous avez entendu hier qu'il y a des règles qu'on ne peut plus suivre, qu'il y a des règles qui étaient peut-être valables au temps de Saint-Benoît, par exemple le lavage littéral des pieds parce qu'on portait des sandales, tandis que maintenant, avec vos chaussures, eh bien, ce serait stupide de vous laver les pieds. Mais ce qui serait utile, peut-être, c'est de vous cirer les souliers. Hein? C'est une façon de laver les pieds. On cire les souliers de ce frère qui est de passage chez nous. Ou cette sœur. Voilà. Alors, comprenez ce qui doit rester de tout cela. Et puis, dites-vous bien que ce n'est pas parce que vous ne mangez pas de ceci, parce que vous ne mangez pas de cela, que vous plaisez à Dieu. Quand tu manges, c'est pour toi que tu manges. Et si tu fais une indigestion, ben c'est toi qui en souffriras. Si tu jeûnes, parce que le jeûne est valable, mais ce n'est pas pour avoir des mérites, c'est parce que le jeûne me donne des possibilités qu'une grosse alimentation ne me donne pas. Dans le jeûne, j'ai l'esprit plus clair et je peux travailler davantage. Et dans le jeûne, je ne suis pas dérangé par les heures de repas. Si j'ai établi un jeûne, je puis me consacrer entièrement à une tâche pendant que j'ai l'inspiration, tandis que si je ne veux absolument pas jeûner, eh bien, je prends mon repas, puis qu'est-ce qui m'arrive? Quand j'ai bien mangé, je voudrais dormir. Et puis pour reprendre l'inspiration, jusqu'à ce que je la retrouve, ça va pas. Alors on peut jeûner un jour, deux jours, trois jours. Mais encore, quand vous vous livrez au jeûne, et que vous vous dites, je vais employer le jeûne, eh bien, faites attention, videz vos intestins avant. Et pour les vider, simplement, ben, buvez beaucoup d'eau, ou faites-vous un lavement, s'il le faut, parce que dès que vous jeûnerez, eh bien, ça fonctionne plus. Et alors, vous risquez d'avoir une intoxication, et c'est pourquoi ceux qui ont commencé des jeûnes, sans préparation, ont eu des maux de tête abominables. Puis, quand vous aurez fini votre jeûne, eh bien, ne faites pas un gueuleton, parce que quand vous commencerez de manger, ça va vous faire mal. ça va vous faire mal dans le palais, parce que, ayant été dans le silence, tous les muscles n'ont pas travaillé, et vous aurez des douleurs affreuses, vous vous demanderez ce qui vous arrive. Commencez par boire un jus d'orange, peut-être. Hein. Souvenez-vous comment les hindous jeûnent. Mais videz-vous. Et puis les constipés du camp. J'espère bien que vous aurez trouvé le remède. Buvez à jeun trois fois ça, s'il le faut. Et ça fonctionnera, vous verrez. Et vous n'aurez pas besoin du médecin. J'enlève des clients à ma femme. Mais c'est vrai, vous serez libéré. C'est si simple. Oh oui, mais moi, j'aime pas l'eau. Ned, hein? Tu n'aimes pas l'eau? Alors, tu aimes la constipation, les longues séances dans ces lieux secrets, comme les appelait Jésus. C'est là que quelquefois on lit sa Bible. Ou un roman noir. Nous avons un autel où ceux qui font les sacrifices au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger, je passe. Nous avons le notre autel, c'est la croix. Et là, Jésus a été crucifié hors du camp. Alors nous voyons Jésus et nous sortons vers lui. Hors du camp, portant son opprobre. Mais hors de la porte, il était crucifié hors de Jérusalem. N'est-ce pas? Alors, replacer tout cela, il écrivait à qui? À des Hébreux, à des Juifs qui avaient tendance de vouloir retourner au temple. Mais c'est pas au temple que le Seigneur a été crucifié. C'est pas là que vous le trouverez. C'est pas dans la ville de Jérusalem, puisqu'il a été crucifié hors de la ville. Alors, n'ayez pas peur, mais si vous voulez rester absolument dans votre milieu, dans votre retranchement, eh bien vous vous privez peut-être de la présence réelle du Seigneur Jésus. Le Seigneur, il a été mis dehors. Alors, retrouvons-le peut-être dehors. Car l'aveugle-né, il a été jeté dehors. Hein? Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il l'a retrouvé. Dehors. Si jamais ça devait vous arriver d'être jeté dehors, hein, de votre milieu, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il vous retrouvera dehors. C'est simplement ça. Nous n'avons peut-être pas à sortir nous-mêmes, mais si on nous met dehors, le Seigneur nous retrouvera dehors. Parce que même à la Odyssée, on le croyait dedans alors qu'il était dehors. Je me tiens à la porte et je frappe. Dans l'Église qui se dit riche, enrichie, n'ayant besoin de rien, le Seigneur n'est pas dedans. Le Seigneur est dehors. Alors, ce qu'il attend de nous, c'est un culte, mais pas un culte une fois par jour, avant le petit déjeuner, pas un culte une fois par semaine, quand on va à l'office, à la messe ou dans nos rassemblements. C'est un culte qu'on offre sans cesse. Heure après heure, minute après minute, c'est une vie à la gloire de Dieu, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Notre louange ne doit pas être seulement dans le moment de culte d'adoration, dans les moments où nous chantons des cantiques. Notre vie doit être une vie de prière. Prier sans cesse, c'est pas marmotter des prières. C'est avoir une vie ouverte à Dieu, et puis le chant spirituel il doit être dans notre vie, et la louange devrait être continuellement sur nos lèvres, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas se taire, mais enfin, quand nous ouvrons la bouche, on devrait sentir qu'il y a adoration et louange. Et un débordement, c'est cela l'adoration, un cœur qui déborde. On n'essaye pas de construire des phrases. Et notre témoignage, c'est pas un témoignage en parole, c'est un témoignage de vie. Alors obéissez à vos conducteurs, vous savez de quelle obéissance il est question, c'est d'une obéissance dans le Christ. Ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire du respect, vous n'avez pas à le traiter n'importe comment, c'est vrai. Il y en a qui croient qu'on a gardé les vaches avec eux, mais c'est aucune importance. Mais c'est pas cela que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'avoir du respect. C'est pas parce qu'on est frère qu'on peut tout se permettre. il faut avoir la politesse que le Seigneur a toujours observée. Car ces serviteurs de Dieu, ils devront rendre compte, on n'aurait pas à rendre compte à vous, j'aurais à rendre compte au Seigneur de ce que j'ai été au milieu de vous. Et alors, ayez ces attitudes pour que le service puisse être accompli avec joie et non en gémissant. Et maintenant, priez, et surtout, si vous avez reçu quelques biens, bien priez pour ceux qui ont été en bénédiction, les campeurs ou campeurs, les campeuses ou campeuses, car nous croyons avoir une bonne conscience, nous nous sommes examinés devant le Seigneur, voulant en toute chose nous bien conduire, c'est ça qui compte, le désir de bien conduire. Alors on insiste sur cela, et finalement, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, c'est qui ? C'est le Seigneur. Ici, c'est le grand pasteur des brebis. Dans l'épître de Pierre, c'est le souverain pasteur des brebis. Dans Jean 10, c'est le bon pasteur, le bon berger. Ce berger du psaume 23 a été ramené d'entre les morts, c'est le Seigneur Jésus. Et lui vous rendra capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté quand vous serez hors du camp, et puis qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. De nouveau, qu'est-ce que c'est servir ? C'est se laisser faire. On retrouve Marie, qu'il me soit fait, selon sa parole, se laisser faire. Alors, le mot de la fin, c'est que le Seigneur Jésus soit glorifié au siècle des siècles. Puis il y a quelques nouvelles. La salutation, bien, vous saluerez vos conducteurs, vous saluerez ceux que vous retrouverez, et que la grâce soit avec vous. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as été pour nous, de nous permettre d'arriver à la fin de cet épître, et nous te demandons que, comme Marie, nous puissions repasser toutes ces paroles dans nos cœurs et recevoir de toi une nouvelle bénédiction en mettant ce que nous aurons compris en pratique. Pour la gloire du Père au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.